Bonjour mes bien-aimés en Christ. Demeurez bénis au nom de Jésus. Que la paix et la grâce de notre Seigneur abondent dans vous au nom de Jésus. Amen. J'ai le plaisir encore de partager ce message avec vous, de faire cet enseignement, cette étude avec vous dans le plan de formation pour nous façonner un caractère chrétien vraiment pour l'édification et le perfectionnement de nous-mêmes dans le Christ. Dans le programme que nous avons fait. Donc nous attaquons aujourd'hui, après l'introduction et les partages que nous avons vus pour mettre en place un plan général en fonction de ce que le Saint-Esprit nous a inspiré, nous commençons aujourd'hui. Et le titre de ce message, c'est « Le plan de Dieu pour la création ». Ah, c'est quelque chose de vaste, le plan de Dieu pour la création. Qui sommes-nous pour prétendre décortiquer, définir le plan de Dieu pour la création? Non. Il s'agit pour nous aujourd'hui, à la lumière des Écritures, d'essayer de trouver une orientation, de trouver un canevas pour nous orienter un peu notre entendement par rapport à ce pourquoi nous sommes là, pourquoi l'homme est sur cette terre, que nous enseignent les Écritures au sujet de d'où nous venons, là où nous allons. Vous savez que la parole de Dieu nous dit, notre Seigneur Jésus nous dit à la fin des livres des Écritures, tout à la fin, je me suis dit, les dernières paroles, il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Et j'ai remarqué aussi que ces paroles ne sont pas seulement dites par le Christ dans la vision de Jean qui nous traduit d'Apocalypse, mais l'Éternel, notre Dieu, nous le dit aussi tout le long de l'Ancien Testament. Il dit, je suis l'alpha et je suis l'oméga. C'est-à-dire, je suis le commencement et je suis la fin de toutes choses. Moi, ce que j'ai compris par rapport à cette expression, ce n'est pas seulement que, comme nous l'avons compris et qu'il est expliqué dans les messages bibliques, ou chaque fois que l'on partage la parole, en disant Dieu est tout. Oui, c'est une vraie réalité, Dieu est tout. Il est le début, il est la fin, oui. Ce que je comprends, moi, dans ça, c'est par rapport à son plan. Moi, je comprends cela un peu plus loin en me disant, Dieu est en train de nous dire que les choses ont commencé avec moi et se terminent. Les choses ont commencé d'une certaine façon. Pour aller quelque part avec moi, ça atteindra son but. Ça se réalisera comme j'ai dit. Et à la fin, ça sera aussi ça. Amen. Donc, dans cette phrase tout entière, il est contenu vraiment le plan de Dieu. Dieu dit ce qu'il a guidé dès le commencement pour faire les choses. Ces choses-là, il est fait. À la fin, ça sera comme Dieu a voulu que ce soit fait. Amen. Donc, je trouve intéressant vraiment que le Saint-Esprit nous conduise pour pouvoir nous interroger vraiment pour ça, parce que je pense qu'il veut mettre une clarté dans notre esprit. Il veut encore nous fixer profondément la pensée même de Père, les fondamentaux de Père, pour que ça nous serve de ligne de marche. Amen. Donc, le Seigneur Jésus, notre Maître, il nous enseigne quelque chose de fondamental. Dans Matthieu 6, les apôtres sont préoccupés par la façon dont ils vont marcher. Ils se rendent bien compte qu'ils sont avec quelqu'un vraiment qui est majestueux de jour en jour, qui est tellement plein d'enseignements, autorité, tout. Ils se disent, waouh. Et ils se sentent tellement petits à côté de ça. Ils se sentent tellement, et ils veulent grandir. Ils veulent aussi être enrichis de cette capacité. Ils disent à notre Seigneur Jésus que les disciples, Jean a appris à ses disciples à prier, à jeûner. Nous aussi, Rabbi, apprends-nous à prier. Et dans Matthieu 6, le Seigneur Jésus s'assoit et leur parle. Et leur parle de la façon dont les disciples doivent être. Et leur parle de la façon dont ceux qui marchent avec lui, dans la direction de Père, doivent être. Il leur dit, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Nous n'allons pas lire tout Matthieu 6. Je vous invite à lire tout Matthieu 6. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Faites ceci de telle façon, ne faites ceci de telle façon. Et vraiment, c'est enrichissant. Parce que ça nous permet de mettre des limites dans ce que nous faisons et dans la manière dont nous nous comportons. Dans la manière dont nous agissons au milieu des hommes. Dans la manière où nous pensons que nous devons faire quelque chose pour plaire à notre Dieu, à Dieu le Père. Jésus-Christ nous a donné des explications là-dessus. Mais je vais m'arrêter à Matthieu 6, versets 9 à 13. Là où il donne à ses disciples une stratégie de prière. Il répond à leurs questions et il leur donne une stratégie de prière. Nous allons lire Matthieu 6 à partir de son verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans d'autres versets, c'est comme aux cieux. Amen. Point. Il finit une phrase et il commence une autre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, point virgule. Pardonne-nous nos offenses, virgule. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, point virgule. Ne nous induis pas en tentation, ça, point virgule. Mais délivre-nous du malin, point. Ça, c'est la deuxième pensée. Troisième pensée. Car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance, la gloire. Amen. Voilà ce que nous dit notre Seigneur. Et quand moi je regarde ça, je constate de façon globale, un jour il nous sera donné l'occasion d'étudier vraiment cette prière. Parce que ce n'est pas qu'une récitation, c'est une stratégie. Les apôtres ont posé une question, Jésus-Christ leur a expliqué tout le contexte de la façon d'être pour se rapprocher de Père. Et il leur a donné des stratégies. Il leur a donné comme ça une stratégie d'approche pour le Père. Amen. Et dedans, il y a trois instructions qui concernent le Père et qui commencent la prière. Et cinq instructions qui nous concernent, nous. Mais dans ce qui concerne le Père, notre Père qui est aux cieux, c'est quelque chose de particulier. Nous ne nous adressons pas à n'importe quel Père. Nous nous adressons au Père qui est aux cieux. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Ok, ça c'est une chose. Dedans, on parle de sanctification, mais on parle de nom aussi, nom de Dieu. Ça, on ne va pas s'attarder sur ça aujourd'hui, on va le voir plus tard. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que la troisième instruction, c'est que ton règne vienne, point virgule. Que ta volonté soit faite, mais pas n'importe comment, pas n'importe où. Sur la terre, comme elle est faite dans les cieux. C'est une précision qui est fondamentale. Voilà que notre Seigneur Jésus nous invite à élever notre bouche, à lever notre voix et demander que le règne de Père vienne, que sa volonté soit faite. Et que ce règne et cette volonté se fassent sur la terre, là où nous vivons, comme elle se fait dans les cieux. Amen. C'est une étape fondamentale. Avant même d'aller demander quoi que ce soit pour nous, nous devons d'abord demander. Parce qu'il nous a déjà enseigné que même quand les choses sont établies, il faut les demander. Amen. Moi, je vais m'arrêter sur ça. Si Jésus nous demande, dans nos prières quotidiennes, de demander au Père qu'il vienne régner, à sa volonté d'être faite, et une volonté qui doit être faite, un règne qui doit être semblable à celle des cieux. Moi, je pense que si nous désirons être éclairés de ce que le Père veut faire sur la terre, de ce que le Père, les choses que le Père souhaite voir se passer sur la terre, nous devons étudier, nous devons nous inspirer de ce qui se passe déjà dans les cieux. C'est la moindre des choses. Comment pouvons-nous savoir donc ce règne et cette volonté qui doit se passer sur la terre si nous n'avons aucune idée de ce qui se passe dans les cieux? En le regardant, nous pouvons au moins avoir une projection de ce qui se passe dans les cieux. Puisque le Seigneur nous dit, Jésus-Christ nous dit que ce règne va se faire sur la terre comme ça se fait dans les cieux. Alléluia. Donc, nous avons un modèle. Soyons curieux d'aller jeter un coup d'œil sur ce modèle déjà, avant de la projeter un tout petit peu sur nous. Amen. Vous allez me dire, mais on va prendre. Mais la Bible que nous avons, elle est riche en révélations. La Bible nous décrit comment Dieu a créé la terre. C'est vrai qu'elle ne nous décrit pas comment Dieu a créé les cieux. Mais seulement, au travers de la grâce qu'il a accordée à ses oints tout le long de la Bible, il a permis que nous puissions voir au travers de leurs yeux ce qu'ils ont vu. Et eux, ils nous relatent ce qu'ils ont vu. Et quand on associe tout ce que les uns et les autres en vue de ce qui se passe dans les cieux, nous pouvons avoir une idée. Je parle notamment des prophètes. Enoch a marché avec l'Éternel. Au jour d'aujourd'hui, on a découvert ce que l'on appelle le livre d'Enoch. Mais nous avons aussi vu les cieux au travers de la vision d'Ézéchiel, de la vision d'Ésaïe, de la vision de Daniel, de la vision de Zacharie, et encore plus proche, de la vision de Jean. Tous ces nous montre comment fonctionnent les cieux à travers la rencontre des uns et des autres. J'allais passer outre la vision de Jacob qui a vu la porte des cieux, les diverses rencontres des gens, tous ceux qui ont fait des rencontres avec angéliques et qui l'ont raconté. ceux qui ont rencontré les archanges. Tous ces témoignages nous enrichissent de la façon dont les choses fonctionnent. Alléluia. J'étais un coup d'œil un peu. J'étais un peu un coup d'œil sur ça. Mais avant, quand nous revenons à l'origine des choses, cette Bible qui nous révèle tant de secrets nous dit quelque chose de particulier. Dans Genèse 1, il nous est dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je m'arrête là pour l'instant. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je me dis, au commencement de toutes choses, Dieu a créé les cieux et après il a créé la terre. Mais avant qu'il ne crée les cieux et ne crée la terre, qu'est-ce qui existait? Dieu. Dieu existait, il était et seul, sans les cieux, sans la terre, puisqu'il les a créés. Alléluia. Allons donc, ayons aussi la curiosité d'aller voir de quel Dieu il s'agit. Qui est Dieu? Qu'est-ce nous enseigne la parole sur Dieu qui, au commencement de toutes choses, était? Encore la Bible nous donne cette révélation parce qu'il a plu à Dieu de donner sa véritable identité à Moïse. Dans le livre d'Exode 3, à partir de son verset 13, lorsque Dieu va appeler donc Moïse, quand il l'a préparé 4 heures, à aller accomplir ce pourquoi il avait choisi, ils ont une conversation. Nous savons le périple que Moïse a traversé. Et Moïse dit, mais tu m'envoies vers ces gens qui m'ont chassé, qui m'ont menacé même de me tuer. Maintenant, tu m'envoies dire quoi? Je vais leur dire que qui? Lisons Exode 3. Moïse ne pose pas cette question parce qu'il ne réalise pas que c'est Dieu. Non! Moïse connaît le Dieu de ses pères aussi. N'oublions pas que Moïse est un Lévite. Et c'est-à-dire, Moïse appartient à une... Ce sont des enfants issus de Jacob. Et Jacob, déjà à partir de Jacob et tout, ça faisait la crainte de l'Éternel. Ils priaient déjà leur Dieu. Ça n'a pas commencé avec Moïse, avec la loi, non. Abraham, déjà, avait son Dieu. Et ils savaient qu'ils adoraient le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, leur père. Donc, Moïse connaissait ce Dieu. Mais, voilà ce qu'il dit à Dieu. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais il s'inquiète. Il dit, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Parce que oui, nous connaissons le Dieu de nos pères. Comme nous-mêmes nous le disons, c'est le Dieu de nos pères. Mais s'il me demande, mais quel est son nom? Vous savez, quand on dit ici le nom de choses, je vous ai déjà expliqué que dans la pensée hébraïque, le nom c'est un tout. Le nom définit la personnalité de ce que l'on est en train de désigner. Le nom contient l'essence même de ce que l'on est en train de désigner. C'est pas comme dans d'autres systèmes de pensée où c'est juste une appellation. Non. Quand Moïse s'adresse à Dieu à ce moment et lui demande son nom, il n'est pas seulement en train de lui demander un mot. Il veut aller plus loin que l'image qu'ils ont du Dieu de leur père. Moïse lui-même est intéressé de savoir quelle la dimension dans laquelle il va se mouvoir. Parce que quand il demande au Dieu quel est ton nom, parce que jusqu'à présent il avait un nom, le Dieu de vos pères, le Dieu de vos pères, en hébreu qui est Elohim. Mais il lui demande, je veux leur dire que quel est ton nom, c'est-à-dire en fait qui es-tu toi vraiment, au-delà d'être le Dieu de nos pères, qui es-tu? En quelque sorte, je reviens ici sur le Dieu avant la création, parce que le Dieu de nos pères, la création est déjà faite, il y avait déjà les cieux, il y avait déjà la terre. Lui, il veut aller plus loin. Pourquoi moi aujourd'hui je suis curieux de dire, mais de quel Dieu? Allons savoir ce que la Bible nous dit de ce Dieu, celui de l'origine, qui au commencement de toutes choses, quand il n'y avait rien d'autre, il était. Moïse aussi voulait savoir. Moïse aussi voulait qu'il se révèle. C'est un désir qui doit monter dans nos cœurs. Que Dieu se révèle à nous. Un désir qui doit monter dans nos cœurs. Mais Dieu a répondu à Moïse. Dieu a révélé son identité à Moïse. Dieu a révélé son essence à Moïse. Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers. Voilà, Dieu a décliné son identité. Donc au tout commencement, il y avait Je. Vous me connaissez, moi je ne m'arrête pas là. Le mot Je suis, c'est traduit en français Je suis. En hébreu, ce terme-là, ce que l'on appelle le tétragramme, le nom de Dieu, c'est Jéhovah. C'est important que nous apprenons à connaître Dieu par le véritable sens des noms qu'on lui donne. C'est Jéhovah. La Bible en français a essayé de traduire ça par le terme l'Éternel. Quand dans la Bible, vous voyez, la Bible écrite en français, vous voyez le terme l'Éternel avec un E majuscule, sachez qu'on parle de Jéhovah, le Je suis. En français, l'Éternel, en anglais, Lord. C'est parce que par ailleurs, on va parler de Dieu en l'appelant Dieu. Parfois, on va écrire Dieu avec D-I-E-U, D'apostrophe, pour indiquer le Dieu Elohim. Ou Dieu avec les petits d pour indiquer n'importe quel Dieu. Nous allons y arriver pour savoir la nuance. Parce que c'est important de comprendre ces choses. Pour comprendre la relation que Dieu veut avoir avec nous. Amen. Un jour, il a plu. Jéhovah, toute sa majesté, puissance seule, de créer les cieux et d'y étendre son règne. Jetez un coup d'œil un peu sur ce que la Bible nous dit, ce que sont les cieux et comment ça fonctionne un peu. On marque une bribe, c'est vrai. Mais regardons déjà. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que les cieux sont un territoire peuplé d'anges. Il a fait des créatures, certainement, d'une certaine façon, puisque ce sont des esprits. Et dans ce peuplement d'anges, il y a plusieurs catégories. On nous décrit des séraphins, des chérubins, on nous décrit des archanges, et on nous explique que c'est une structure qui est très hiérarchisée, qui est très structurée, qui est organisée, et il y a des archanges qui dirigent des colonges, qui ont des armées d'anges, qui ont des anges qui sont à leur service, et tous ces archanges ont des rôles différents, ont des attributions différentes. Dieu les a équipés, Dieu les a façonnés, Dieu les a remplis de dons, de talents pour faire diverses choses qui devaient servir dans le royaume des cieux. Quand on nous décrit comme les pouvoirs qu'il a donnés à Lucifer et tous les attributs qu'il a donnés à Lucifer, quand on nous décrit dans le livre de Job comment l'a façonné le Béhomoth et donné des pouvoirs, quand on parle de l'ange Gabriel ou de l'ange Michael, quand on nous parle de plusieurs anges, et dans la Bible, il nous apparaît de part et d'autre, il y avait au moins 7 archanges avec des myriades d'anges qui travaillaient sous leurs ordres, etc. Et les uns pour prendre l'archange Rapha pour les guérisons, l'archange, tout ça c'est dit dans la Bible. C'est une réalité. Dieu a façonné cela de cette et il fonctionnait. On a la vision de Jean nous décrit comment le trône de Dieu est organisé. À sa droite, l'agneau, à sa gauche, le Saint-Esprit, autour de son trône même, les 24 anges, devant le trône, l'autel d'or, avec des anges qui s'affairent, ceux qui versent, qui encensent, ceux qui apportent, et les chérubins qui chantent, et on nous décrit tout ça. Vraiment, une atmosphère de gloire, une atmosphère de paix, une atmosphère d'adoration, une atmosphère d'obéissance même, parce que les anges obéissent aux archanges, et les archanges mettent en pratique, en exécution, les ordonnances de Dieu. Donc, c'est une atmosphère où les choses se passent dans un contexte d'obéissance, dans un contexte d'exécution, d'action, dans un contexte d'adoration, dans un contexte d'élever des louanges. On nous parle de l'autel qui est devant, et des 7 lampes qui sont les esprits de Dieu, qui sont aussi en actif par rapport à tout ce qui va se passer sur l'autel. On nous montre ceux qui viennent brûler les encens, les vieillards qui viennent verser le contenu de leur vase, qui sont nos prières, et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'avant même que la terre ne soit créée, les cieux fonctionnaient d'une certaine façon, les pouvoirs étaient donnés, et tout cela contribue à chose, à élever la, à établir au milieu d'eux comme ça le règne de Dieu. Venait régner, il était assis sur son trône, et son trône n'a pas changé. Son trône pour établir au milieu de tous ses anges justice et équité. On nous décrit le Dieu de cette dans la vision d'Ézéchiel, il nous décrit la vision de pas dans les cieux, lui, dans les cieux. Il a vu venir. Donc quand descend, waouh, il se passe quelque chose. Il a décrit une scène partie particulière la nuit du trône. Et là, cela m'a fait comprendre que quand Dieu se déplace, il se déplace avec une portion des cieux, une portion de son ciel. Et quand il y a son feu qui consume tout l'espace pour que le lieu soit saint et puisse descendre. Et qu'il décrit avec ses anges qu'il voit et les yeux qui tournent de partout. Et la Bible nous dit que ce sont les esprits de Dieu qui ont les sept yeux. C'est-à-dire les yeux de l'esprit qui voient partout et qui tournent. Ce sont des scènes qui nous permettent de nous projeter, de nous imaginer. Vous savez, dans la parole, la foi est créée comme la ferme assurance des choses qu'on met en quoi on croit. Donc il y a une part d'imagination dans la foi. Il faut saisir et projeter cela. Il faut s'en faire une image en soi. Et la Bible nous donne vachement les éléments pour pouvoir projeter et mûrir notre cœur. Donc, jusqu'à Dieu a créé les cieux de cette façon. Et il vit que c'était bon. Cette atmosphère lui a plu. Toutes ces choses étaient bonnes. Et un jour, il a dit, c'est très bien. Je veux continuer. Il a décidé d'élargir son royaume et de créer d'autres territoires sur lesquels il allait mettre une créature qu'il voulait beaucoup plus à sa ressemblance et à son image. Et créer un environnement, un territoire où son règne serait encore présent et où se dérouleraient les choses comme dans les cieux, encore plus même en même. C'était la terre. Donc, si nous nous projetons à nous, c'est dans cet état d'esprit que Dieu a créé les cieux et la terre. Il y a une chose, lorsque la Bible dit l'éternel Dieu, l'Élohim, a créé la terre, je veux revenir ici sur comment nous devons comprendre l'Élohim. Vous savez, les Grecs, dans le Nouveau Testament, on va toujours utiliser le même mot pour désigner quel que soit le Dieu. C'est Théos. Mais c'est moins parlant. Parce que chez les Grecs, le nom n'a pas la même puissance que doit avoir. Ça ne traduit pas l'essence, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais Dieu, dans l'Ancien Testament, se décline de plusieurs façons. Parce que à chaque fois, c'est une essence de Dieu qui est mis en agir. Et nous avons vu que le Dieu qui était là devant, c'est le Je suis, c'est Jéhovah. Mais quand il entreprend de rentrer, de créer des territoires et de faire des créatures avec lesquelles il veut cohabiter, la Bible le désigne sous le nom de Elohim. On dit Elohim a créé les cieux et la terre. Et pendant tout le livre de Genèse, on va dire l'éternel, donc Jéhovah, virgule, Dieu, Elohim. C'est ça son importance. Ça veut dire que lorsque Jéhovah entreprend de rentrer en communication avec sa créature, il le fait dans une dimension. Et tout le long de la Bible, quand on comprend ce que c'est, on voit que c'est Elohim, c'est dans une dimension relationnelle. Revenons dans l'Ancien Testament et voyons clairement ce que Dieu dit à Moïse. Dieu dit l'Élohim de vos pères, donc l'Élohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que c'est avec Abraham que Dieu a recommencé à mettre en place un processus pour la rédemption de l'homme et pour aboutir son. Il s'est présenté à Abraham comme son. Dans tout l'Ancien Testament, tout le processus jusqu'à Jésus même, Dieu n'a cesse d'essayer de nous faire comprendre qu'il vient vers nous avec une considération de cœur. Dieu vient vers nous avec un cœur ouvert pour nous déverser son amour et qu'il veut être en relation avec nous. C'est ce que Jésus nous dit. Il nous a tant aimé qu'il a envoyé le Fils. Et il nous dit, aujourd'hui, vous avez le plus grand commandement, qui est celui d'aimer Dieu plus que tout. Dieu, en créant les cieux et la terre, et en créant particulièrement la terre, crée la terre dans une dimension d'amour relationnel. Dieu ne veut pas juste créer la terre pour créer. Il veut établir quelque chose, une véritable collaboration, une véritable union avec sa création, toute sa création, dans une finalité que les choses se passent, dans un cadre, dans une atmosphère d'adoration, dans une atmosphère de joie, de paix, de calme, comme dans les cieux, dans une atmosphère même de puissance, comme dans les cieux. La Bible nous dit dans Genèse 1, Elohim a fait ceci, Elohim a fait cela. Elohim est Jéhovah. Il faut qu'on se comprenne bien. Jéhovah est puissant. Il est assis sur son trône dans les cieux. Il règne, il est assis. Mais dans cette dimension où lui-même la parole nous dit que le trône de Dieu est un trône de justice et d'équité, il tient en main un sceptre de jugement qui est un sceptre d'équité. Autour de lui, ses esprits sont en œuvre et son feu consume. Ce Jéhovah est le Dieu règne. Il fait tomber la pluie sur les bons, sur les il règne sur l'existant en entier. Et il établit les choses selon une règle de justice. Alléluia. Mais dans cette dimension-là, il veut établir dans une autre dimension, un autre relationnel. La relation du cœur et pas celui du trône, et pas celui du sceptre, pas celui du jugement seulement. Il veut établir une relation de cœur. C'est pour ça qu'il vient et tout le long de la Bible, il n'a cesse de dire, je veux être votre Dieu. Et vous, mon père. Parce que le Elohim dont on parle dans la Bible, quand c'est le Elohim de Abraham, Isaac, nous l'appelons Dieu avec un grand D pour identifier le Elohim. Mais ce même terme, Elohim, peut être utilisé comme des dieux. Vous savez que nous sommes dans un monde où il y a tellement de dieux, tellement de choses, en fonction des tribus, des races, des communautés, des groupes. Les gens adorent ce qu'ils veulent. Parce que Dieu veut dire, qui reconnais-tu comme devant te prosterner devant? Qui reconnais-tu comme ce qui est suprême? Qu'est-ce que tu places pour déifier ça? Devant quoi te prosternes-tu? Qu'est-ce que tu adores? Qu'est-ce que tu... Dans cette atmosphère, les gens ont de divers dieux. Nous le savons, même dans la Bible. Il est toujours question des dieux des autres, des dieux qui n'ont pas de bouche pour parler, les dieux de statues, les idoles, tous ces processus-là. Et Jéhovah nous dit qu'il est un Dieu qui est jaloux. Donc, il est jaloux parce qu'il voudrait que nous soyons avec, que sa créature le considère lui comme leur Dieu. Il dit, je veux être votre Dieu et vous mon peuple. Voilà la relation depuis le commencement. Et dans cette relation-là, il y a moi j'ai fait une allusion, et je dis, Elohim, c'est le cœur de Dieu qui parle, et Jéhovah, c'est la tête de Dieu. Elohim, c'est son cœur, c'est avec son cœur que Dieu veut. Et il t'appelle dans une relation de cœur à cœur. Il veut que tu le choisisses. Prenons une image, c'est celle du jardin d'Éden. Quand il a créé l'homme, il a fait un modèle de ce qu'il voulait faire. Dans le tout l'aura avant que la rébellion la au ciel et qu'il les chasse du ciel et qu'ils descendent sur la terre en se jurant de détruire la création. Toute la terre devait être à l'image. Et Dieu a choisi une portion de la terre et il l'a améliorée. Dieu a choisi une portion de la terre et il l'a améliorée pour y mettre Adam. Question que Adam voit ce que Dieu veut faire. Pourquoi? Parce que Satan et sa horde avaient déjà été chassés. Et Dieu savait qu'il voulait faire de la terre leur champ de bataille. La terre avait tout son potentiel, mais non encore exploité, mis en œuvre. Mais Dieu a fait une portion, ce qu'il a appelé l'Éden. Il a mis tout ça, il a dit, tout ce que tu vois là, c'est comme ça que toute la terre entière pourrait être. Je te place ici, dans le jardin d'Éden, pour faire une chose, cultiver cette terre, et la garde. La Bible nous dit que c'était un territoire où Dieu venait. La proximité de Dieu, les visites du soir. Dieu dit que Dieu venait et il causait avec Abraham. Avec Adam et Ève. Il causait. Il avait établi les choses dans le jardin tel qu'il ne rien fou. Il ne manquait rien du tout. Il y avait même l'arbre de vie qui était là. Vous imaginez quand on dit que quand un arbre est un arbre de vie, ça veut dire que tu tends la main, tu cueilles un fruit, tu manges le fruit de la vie. Qui est-ce qui nous a dit par la suite qu'il est la vie? Christ, dont Jésus-Christ lui-même était déjà dans le jardin. Parce que Jésus-Christ, depuis toujours, est un Jéhovah. Et il siège dans la trinité d'Élohim. Mais Dieu a voulu l'homme à son image et à sa ressemblance. Et au-dessus des anges, aller avoir un libre arbitre. Sachant qu'il avait déjà précipité Satan et sa horde. Et étant un Dieu de justice et d'équité, il se devait de faire des choses d'une certaine façon. Ça devait être par notre volonté. Ça devait être par notre décision, par notre vouloir. Nous devions choisir Dieu. Puisqu'il y avait déjà dualité. Adam devait consentir de choisir Dieu. C'est pour ça qu'il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne se l'est pas caché. Il lui a dit, il y a ici un arbre, mais ne mange pas de ce fruit. Ne mange pas de ce fruit. C'est pareil quand nous sommes dans le monde. Dieu, en nous donnant ses commandements, cette lettre, ils nous disent, ne mangez pas de fruits du monde. Choisissez-moi et mangez de mon fruit. Le fruit de la vie qu'est Christ. Mangez de ce fruit-là. Ne mangez pas du fruit là. Je vous montre ça dans ma parole. C'est un choix. Parce qu'à partir du moment où nous avons choisi, Jéhovah est dans sa justice. Tu m'as choisi. Lui là-bas, il ne peut plus rien contre. Parce que tu m'as choisi. Et tu ouvres son cœur et veut vivre cela. Si Jéhovah, c'est le plan de Dieu. Elohim, le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, qu'il vient avec toute sa dimension pour répondre à ce que Jésus nous dit dans le Nouveau Testament. Cherchez premièrement le royaume et ma justice. C'est Jéhovah qui parle. Cherchez premièrement la justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Tout le reste là, c'est le cœur d'Elohim. Quand vous voyez Elohim dans l'Ancien Testament, parce que c'est la dimension du cœur de Dieu qui veut collaborer avec nous, qui veut entrer en partenariat avec nous. Le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui sait toutes ces choses, veut collaborer avec toi. Et te dit, cherche mon royaume et ma justice. Choisis-moi. Et toutes ces choses, je déverserai dans ta vie. Puisque le partenariat avec moi, c'est ça. Si tu viens à moi, c'est avec tout ça que tu vas communier. Et c'est une réalité. Si on veut, ça me laisse voir une chose. Si l'on veut rentrer dans le plan de Dieu, si on veut accomplir la destinée selon la création que Dieu a mis en nous avec la création, si l'on veut vraiment rentrer dans la plénitude destinée, on doit passer par le cœur de Dieu. On doit embrasser Elohim et marcher avec. En Jésus-Christ, notre Seigneur et notre. C'est dit qu'il est l'Elohim d'Abraham, d'Isaac et Gob. Que Jésus-Christ est venu dans la postérité. Et que Jésus-Christ nous dit lui-même qu'il est venu réconcilier toute la création avec le Père. Et rattacher celui qui croit à la postérité d'Abraham. C'est pour que nous ayons ce Dieu Elohim. Donc, notre Seigneur Jésus vient dans la plénitude de l'accomplissement de quelque chose. Quand Dieu sort Adam et Ève, chasse Adam et du jardin d'Éden pour ne l'avoir pas choisi en fait. Ce qui se passe dans le jardin d'Éden, c'est que, étant trompé par la ruse de Satan, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas été étant trompés par ça, ils ont choisi de ne pas choisir Elohim. Ils ont choisi de ne pas choisir. On les a chassés du jardin d'Éden pour le reste de la terre qui avait les bénédictions de la création, mais pas la plénitude qui avait été mise au jardin d'Éden déjà. Par exemple, les fleuves qui arrosaient l'Éden. Toutes les choses étaient déjà disponibles. On demandait à Adam juste de cultiver, c'est-à-dire de les renouveler et de garder, donc de préserver cela. Dans son relationnel avec Elohim. Ça ne s'est pas passé comme ça, ils ont dû sortir du jeu. Mais Dieu a pris la précaution. Dieu a pris la peine dans son âme. Parce que le désir de son cœur et le plan que lui il cherche jusqu'à la fin, c'est cette communion avec cette. C'est de régner sur ce territoire et d'avoir le peuple avec lequel il veut. Il les a couverts. Il a fait un sacrifice. Il les a couverts de ce sang. Il les a couverts de peau de bête. Et il les a couverts du sang de l'agneau. Pour les préserver même. Sinon, je ne sais même pas si Adam et Ève, si nous aujourd'hui on existerait. S'il n'eût été cette préservation jusqu'à ce que Jésus vienne. Parce qu'il savait très bien que ce processus devra recommencer et suivre un cours, toujours d'acceptation. Puisque Adam et Ève n'avaient pas accepté, Satan en devenait presque le maître. Qu'il en soit conscient ou pas, c'est pareil dans le monde d'aujourd'hui. Quand tu ne choisis pas la voie qu'a ouvert Jésus-Christ, quand tu ne choisis pas Elohim pour cette relation de cœur à cœur, tu peux penser même que tu es neutre. Mais tu ne peux pas être neutre. Parce que si Dieu lui attend que tu dises oui et désire ton oui, il y en a à côté qui ne désire pas que ce soit oui ou peut-être lui prend ce qui n'est pas aller se cacher ou se blottir à Elohim par Jésus-Christ notre Seigneur et notre au jour d'aujourd'hui reste la proie, une possible proie pour celui qui n'attend pas que tu dises oui, il va venir te rôder autour puisque ce n'est pas défendu. À plus forte raison ceux qui leur disent oui. Dans ce monde-ci, c'est cette évolution et Dieu dit je suis toujours là, j'attends que vous me disiez oui, qui vient à moi. Jésus-Christ est venu pour rendre cela possible. pour le faire accomplir. C'est disponible. Prenez-le. Même depuis 2000 ans aujourd'hui, passez. Que c'est dit dans le monde, que c'est établi. C'est tous les jours encore qu'il faut faire des efforts surhumains pour convaincre une ou deux personnes de choisir Dieu, de dire oui à Elohim qui vous ouvre son cœur et qui vous dit viens. Oui, ce qui est particulier, ce qui me rassure et me donne la foi, la confiance, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, j'ai vaincu, j'ai tout vaincu. Et qu'au début, j'ai commencé par l'alpha et l'oméga. À la fin, Dieu viendra son plan. Amen. Mais Dieu nous veut partenaire de ce plan. Depuis le début, il a toujours voulu venir régner, pas seul. Au commencement, il régnait dans sa plénitude, seul. Mais aujourd'hui, quand il a créé tout ça, c'est parce qu'il veut le faire avec nous. Il veut que nous soyons partie prenante de son règne. Il veut que nous soyons associés à son règne. Et il est sans cesse en train de dire, moi, je viens vers vous, je veux que vous veniez vers moi. Jésus-Christ nous dit dans sa parole, dans les Écritures, dans l'Évangile de Jean, celui qui suit les commandements de mon Père, c'est celui-là qui aime mon Père. Et mon Père l'aimera aussi. Si tu m'aimes, tu m'aimes, tu aimes mon Père, puisque je suis représenté. Et il t'aimera. Il m'a envoyé te réconcilier à lui. Choisis-moi, passe par moi, et tu connecteras à lui. Et la plénitude de tout le reste, de tous les noms qu'on peut donner à Elohim dans la Bible, et de toutes les promesses que Elohim a faites dans la Bible, seront ton lot. Amen. Parce que je vous assure, même dans le Nouveau Testament, il n'y a pas, les promesses ne sont pas décrites. Jésus dit, je suis venu accomplir tout ça. Ce qui a été promis, oui, je suis venu l'accomplir par moi. Je viens établir que c'est comme ça. Jésus vient nous enseigner de nouvelles choses. Jésus est venu établir le royaume de Dieu et enseigner à ceux qui consentent de passer par la porte qu'il est, ce qu'ils doivent savoir et le processus de ce qu'ils doivent faire avec lui, Jésus, pour finaliser le plan de Père. Alléluia. Parce que c'est lui le premier qui est venu accomplir ce plan de Père. Et il est venu établir toutes choses par l'amour de Père pour nous, afin que en lui, nous œuvrons donc avec le Père pour la finalité de son plan, le règne, son règne. Et chaque fois que quelque part, pour un problème donné, pour un adonné, Dieu nous fait évoluer et que nous acceptons, je ne sais pas, un jeûne, une prière, parce que nous l'avons reçu dans notre cœur et que nous sommes concentrés sur tel problème, nous faisons descendre le règne de Dieu et nous accomplissons sa volonté dans cette parcelle de choses. Et c'est comme ça que le territoire va être gagné de part en part, de portion en portion, de territoire en territoire, parce que des poches de ce que Dieu avait établi pour son règne dès le commencement et qu'il avait établi les anges pour organiser un peu ça. Aujourd'hui, la rébellion connaît les poches et essaye de se tenir sur les poches, les points distincts du règne de Dieu. Et Dieu a besoin de nous. Dieu veut que nous rentrons dans ce combat pour pouvoir reprendre cet terreau à l'ennemi, pour repousser l'ennemi, pour que son règne, la plénitude de son règne. Alléluia. Et chacun, comme une armée, a un dépôt et par la puissance du Saint-Esprit, agissant, aura le discernement de ses poches, le discernement de ce qu'il et le fera dans la plénitude du rétablissement du règne de Dieu. Alléluia. Et Jésus nous dit, tous ont en eux chacun un rôle. Il faut que nous les délivrons des pièges de Satan, afin qu'ils rentrent dans le pour accomplir la part. Alléluia. Et ça sera ainsi établi la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par Dieu. Parce que les promesses de Père sont libérées. Ce message peut être encore beaucoup, 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 beaucoup plus long que ça. Mais ce n'est pas le but. C'est juste des axes pour nous amener à méditer, pour nous amener à avancer, pour nous amener à vraiment mettre notre confiance en Dieu notre Père, à mettre notre confiance en Elohim, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous ensemble, ce conseil divin qui nous déverse l'amour et le cœur de Dieu. Et ce cœur a un besoin, le cœur de Dieu a un besoin. Il soupire après notre amour, le cœur de Dieu soupire notre collaboration. Alléluia. Mets ta confiance à l'Éternel et il agira. L'homme est très souvent préoccupé par ses propres, préoccupé par les choses qu'il pense lui être utiles, préoccupé par. Et la parole de Dieu nous dit, change le sens de tes préoccupations, des priorités de tes préoccupations. Mets Dieu d'abord, ta relation, ta communion avec Dieu d'abord. Et le reste, il le fait. Et le reste te sera donné. arrivera à toi. Cherche à grandir dans votre relation, dans votre connaissance, dans sa connaissance. Cherche à le connaître mieux. Le Saint-Esprit est là pour nous y aider. Qu'il soit vraiment au centre de ton être. Que ton cœur se porte vers lui. Reste. Suivre. C'est parfois difficile de tenir des messages comme ça. Parce qu'à la fin, les gens se demandent, mais ça veut dire alors, nous sommes dans le monde, on ne doit plus faire ceci, on ne va plus faire cela. Nous sommes dans le monde, lui-même il dit que nous sommes dans le monde. Nous devons cultiver et garder, parlant de son roi. Mais nous devons évoluer aussi dans le monde. Travailler. Mais la grâce de toutes ces choses vient de lui. La grâce de travailler sans que ça soit un labeur. Parce que le tout n'est pas de travailler. Il y a des gens qui travaillent, qui rentrent chez eux, qui pleurent tous les jours. Parce qu'ils sont dans le labeur. Ils gémissent tous les jours. Mais le Seigneur veut nous donner la plénitude du travail. Sans la peine. C'est-à-dire que le travail même, que nous trouvons le plaisir d'Adam. Et que nous soyons traités même sur nos lieux de travail. Avec grâce et faveur. Dans nos familles. Le tout n'est pas d'être marié. Dieu veut qu'avec dans sa communion, nous trouvons la plénitude d'un mariage heureux. Dans sa communion, nous trouvons la plénitude et la sagesse pour l'éducation de nos enfants. Parce que ces choses-là, c'est donné aux païens aussi, d'être marié, d'avoir des enfants, etc. La plénitude de la grâce qui nous vient de l'union et de la communion avec notre Dieu, c'est justement ça, cette dimension, cette part qui ne vient que de lui et qui met une paix, une joie, une sérénité. Une préservation dans ce que nous faisons, nous avons pour la traversée de ce monde. Pourquoi? Parce que notre cœur est premièrement à lui. Notre cœur est premièrement. Quand Jésus nous dit dans les commandements, il dit le premier commandement et le second c'est. Le plus grand commandement et le second c'est. Aimer Dieu plus que tout. De tout votre cœur, de tout votre âme. Et par la suite, votre prochain comme vous. C'est dans cet amour, agapeo, dans cette direction que l'on est rempli. De l'amour, charité. Qui nous permet d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. D'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Parce que le comme nous-mêmes, là, ça veut dire que l'amour là, qui est venu de lui et qui est descendu en toi, tu la partages. Moitié, moitié. Il a dit, comme tu aimes ton prochain comme toi, en toute chose, tu coupes, tu donnes moitié, tu gardes moitié. Mais quand tu vas vers lui, il te donne entier ce que tu vas venir partager. Si tu ne vas pas vers lui, tu n'as rien. Et quand tu reviens, il n'y a plus rien là. Dieu veut la priorité de nous. Moi, je disais à une époque, je recevais vraiment l'éclairage, la révélation du Saint-Esprit, de ce que Dieu attendait de nous, vraiment, la dîme. Dieu attend la dîme de tout. Dieu ne dit pas que pendant toute la journée, tu dois seulement être là, machin, puisque nous sommes dans le monde et que nous avons évolué dans le monde. Il a dit donner à César ce qu'il y a à César. Si tu marches sur les rues là, que César a bâti, tu dois payer les impôts de ça. Mais ce que César ne peut pas prendre, c'est la priorité dans ton cœur. Il ne peut pas te forcer à lui donner la priorité de ton cœur. Même à l'aimer, non. Donc ça, c'est déposer en Dieu. Le temps, il y a une partie que tu vas donner à ta femme, peut-être à tes amis, à César lui-même. Dieu veut la dîme de ce temps. Donc dans ce temps-là, les 24 heures qu'il t'a donné dans la journée, Dieu veut que tu lui consacres une partie. La portion du temps que tu auras pour aller vers lui, étudier sa parole, prier, lui parler, méditer. Ce temps, accorde-lui ce temps-là. Pendant ce temps, même, il te nourrira. Il te remplira pour que tu sois meilleur que les autres. Parce qu'il veut rayonner en toi. Il veut régner au travers de toi. Amen. Dans ta productivité, il veut ta dîme. Et il a déjà dit à quoi il demande la dîme de ta productivité, qu'il a déposé là ce que tu fasses avec. Ça, il te le demande. Vous savez, Dieu est un Dieu d'équité. Et quand j'étudiais, je faisais l'étude sur l'équité. J'ai eu la révélation. Il m'a donné le passage de la manne qu'il a distribuée, avec laquelle il a nourri son peuple dans le désert. Et dans cette manne, il y avait une mesure. C'était le, je ne sais même pas si j'aimerais bien que le pasteur comprenne ce que signifie son nom, Omer. On en discutera. C'était sa mesure. Et l'Omer, c'est le dixième de l'effet. Et l'effet, c'est la pleine mesure de ce que l'on. Le dixième de l'effet. Quand vous n'avez pas, Dieu vous nourrit avec ce dixième. Quand vous êtes dans un contexte de non-productivité et quand vous devez passer dans le contexte de productivité, Dieu vous demande. C'est sa mesure. Parce qu'il y a un mystère. Mais il veut l'entièreté de ton cœur. Il veut la priorité dans ton cœur. Il veut que tu le choisisses, lui. Parce que si tu le choisis, lui, il a dit, tu ne peux pas me choisir, choisis Bélial. Nous ne pouvons pas communier ensemble. Tu me choisis, tu m'as choisi. Tu dis non à l'autre. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut. Que nous cessions d'avoir un pied dehors et un pied dedans. Que nous soyons là, un pied dans la tradition et un pied un peu avec lui. Que nous soyons là dimanche à chanter Jéhovah est son nom. Et dès lundi là, nous sommes dans les mapanes ou les affaires. Les affaires d'escroquerie. Nous sommes dans les affaires de négociations, de corruption, de machin. Soi-disant, mais c'est comme ça. Si tu ne fais pas comme ça, tu fais comment? Non, si tu ne fais pas comme ça, tu fais comme Dieu dit. Et lui, il va te soutenir. C'est ça que Dieu veut. Parce qu'on ne peut pas tricher et dire qu'on l'a choisi avec le bout de la bouche alors que ce n'est pas vrai. Il ne prend pas de ça. Parce que ce n'est pas saint. Dans la prière que Jésus-Christ nous a enseignée, il a dit que ton nom soit sanctifié. J'ai toujours demandé, mais Dieu est saint, pourquoi Jésus nous demande de ça? C'est nous qui disons. Ça veut dire que quand nous approchons de toi, ô Père, oh, vraiment, que ton nom devienne sanctifié. Ça veut dire qu'il faut que nous l'approchions en étant saints. Mes frères, mes sœurs, le plan de Dieu pour nos vies est un plan parfait, magnifique, grand, vraiment parfait. Que par son esprit nous aide à voir, à regarder, à accepter, à embrasser ce plan de Dieu. En cherchant son cœur, le cœur du Père. Alléluia. Et en rentrant pleinement comme ça dans l'accomplissement de ses desseins. En nous laissant transporter comme ça par son amour. Parce que notre oui est oui avec lui. En Jésus-Christ notre Seigneur. Que nous cessons d'avoir le cœur qui se trouble. Et que nous demandons, Saint-Esprit, mon Père, viens et conduis-nous. En toutes circonstances, dans les plans parfaits de Dieu, de Jésus-Christ, mon Seigneur. Enseigne-moi ses voies. Enseigne-moi ses voies. Afin que je puisse les mettre en pratique. Alléluia. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Demeurez bénis en toutes choses. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.